Radio Prague, les informations.
Les dirigeants tchèques ont salué la décision de l'OTAN de prendre le commandement des opérations militaires en Libye. Des particules de radioactivité ont atteint la République tchèque, mais sans danger pour la population. Deux personnes sont mortes dans l'explosion d'un réservoir d'essence à Česká Lípa. Les ministères tchèques de la Défense et des Affaires étrangères ont salué la décision de l'OTAN de prendre le commandement des opérations militaires en Libye, une information publiée ce vendredi par les porte-paroles des deux ministères. Le transfert du commandement à l'OTAN est une bonne nouvelle et nous nous en réjouissons. La République tchèque et le ministère de la Défense soutiennent cette résolution depuis le début de la crise en Libye, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense Jan Pejšek. D'après le premier ministre tchèque Petr Nečas, il s'agit d'une bonne démarche. Le chef du gouvernement tchèque a tenu à rappeler que la République tchèque ne participerait pas aux opérations militaires en Libye. Nous n'avons pas changé d'avis, a-t-il déclaré. L'Office national de radioprotection a enregistré ce vendredi l'arrivée en République tchèque des premières particules radioactives provenant de la centrale nucléaire accidentée au Japon. Une information communiquée par la présidente de l'Institut national pour la sécurité nucléaire, Dana Drábová. Selon les spécialistes tchèques, ces substances ne représentent aucun risque pour la santé de la population. Des traces de l'accident au Japon ont été perceptibles également en Suède, en Finlande, en Pologne et en Bulgarie. Après la catastrophe de Tchernobyl, l'ancienne Tchécoslovaquie avait mesuré des valeurs de radioactivité 10 000 fois supérieures qu'actuellement. L'explosion d'un réservoir d'essence dans un ancien dépôt de carburant dans la commune de Česká Lípa en Bohême du Nord a fait 2 morts et 2 grièvement blessés dans la matinée, selon l'agence de presse ČTK. Vendredi après-midi, la police ne connaissait pas encore l'identité des victimes. D'après les pompiers, l'explosion s'est produite vendredi avant-midi dans le dépôt de la société Benzina à proximité d'une ancienne station essence. Elle a provoqué un incendie qui menaçait de se propager jusqu'au deuxième réservoir d'essence. Le feu a été maîtrisé par les pompiers à 12h45. Le fils du protecteur du Reich en Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich, a démenti vouloir participer à la rénovation du château de la commune de Panenské Břežany, non loin de Prague, où la famille a habité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Heydrich est aujourd'hui âgé de 76 ans et réside en Allemagne. Le maire de la commune a indiqué à la radio tchèque qu'il lui avait proposé lors d'une visite d'aider à trouver des fonds pour la rénovation, notamment des fonds européens. Les 22 joueurs convoqués par le sélectionneur Michal Bilek affrontent l'Espagne ce vendredi à Grenade et le Liechtenstein mardi prochain dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2012 de football. Pour le match contre l'Espagne, championne du monde et d'Europe en titre, les Tchèques peuvent compter sur leurs meilleurs joueurs. Aucun d'entre eux ne souffrant d'ennuis de santé. Absent lors des derniers matchs de qualification pour cause de blessure, l'attaquant Milan Baroš est également présent. Côté météo, après une série de belles journées largement ensoleillées, le temps nuageux et pluvieux est en perspective. Samedi, des averses de pluie et de neige se produiront notamment dans la partie est du pays. Les températures seront en baisse entre 4 et 8 degrés seulement. Nous fêterons samedi l'Emmanuel. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Magda Hrozinková pour ce bulletin d'information. Ces derniers jours, les journaux faisaient état des intentions du fils de Reinhard Heydrich, protecteur du Reich en Bohême-Moravie pendant la Deuxième Guerre mondiale, de vouloir participer à la rénovation du château de la commune de Panenské Břežany, où sa famille avait vécu. Une information démentie par l'intéressé. Les détails dans quelques minutes, et puis nous parlerons d'une greffe unique en son genre. Un chirurgien tchèque a réalisé une greffe complète du visage sur un jeune Américain défiguré lors d'un accident. Tout cela, ce sera avant de passer avant la rubrique économique. Bonne écoute de ce programme. Le fils du protecteur du Reich en Bohême-Moravie, Reinhard Heydrich, a démenti pour Radio Prague vouloir participer à la rénovation du château de la commune de Panenské Břežany, non loin de Prague, où la famille a habité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Heydrich est âgé aujourd'hui de 76 ans et réside en Allemagne. Le maire de la commune avait laissé entendre que Heider Heidrich souhaitait l'aider à trouver des fonds pour la rénovation, notamment des fonds européens. Reinhard Heydrich, l'un des artisans de la solution finale, est mort des suites de ses blessures après l'attaque de sa voiture le 27 mai 1942 à Prague par deux parachutistes de la résistance tchécoslovaque, Alimuddin Ousmani.
Le village de Panenské Břežany a reçu récemment un visiteur peu commun, le fils de Reinhard Heydrich, ancien protecteur de Bohême et Moravie. Heider Heydrich est âgé aujourd'hui de 76 ans et réside en Allemagne. Le maire de Panenské Břežany, Libor Holík, a parlé jeudi à la radio tchèque des pourparlers apparemment entamés avec Heider Heydrich à propos d'une aide concernant les réparations du château.
J'ai eu la possibilité d'entrer en négociation avec Heider Heydrich concernant la rénovation du château. Il a proposé une aide sous forme administrative et la possibilité de trouver des fonds par l'entremise de l'Union européenne. Il nous faut différencier le fils du père, car à l'époque où lui et sa famille ont quitté les lieux, il n'avait que 10 ans. Il ne connaissait donc pas la signification de la guerre.
Ce vendredi, nous avons joint Heider Heydrich et il a démenti être impliqué dans ces projets de rénovation du château.
C'est vrai que je suis venu, mais il s'agissait d'une visite privée, avant tout parce que mon frère est enterré là-bas. J'ai rencontré à cette occasion le maire qui m'a fait part de sa tristesse quant à l'état du bâtiment. Je partage son sentiment, mais je lui ai dit que si quelque chose pouvait être fait, c'était seulement par le propriétaire lui-même. Moi, à mon âge, je n'ai plus de raison d'aller en Tchéquie.
Le maire de la commune a indiqué qu'il avait contacté le propriétaire du château qui avait accepté le principe d'être aidé dans la recherche de fonds par le fils Heydrich. Libor Holík a précisé qu'il comptait se rendre en Allemagne pour l'en informer. La contradiction entre les différentes déclarations pourrait être due à la pression médiatique qui s'exerce sur un homme de 76 ans dont l'héritage paternel et les initiales HH sont difficiles à porter. Son père fut l'un des maillons les plus importants de la terreur nazie à laquelle il a collaboré de manière déterminée et déterminante de 1931 jusqu'à 1942. Date de l'attentat perpétré à Prague par deux parachutistes tchécoslovaques envoyés de Londres. La résidence qu'il a occupée brièvement durant la Deuxième Guerre mondiale a besoin de réparation.
La semaine dernière, une équipe de médecins de Boston a mené avec succès une opération qui fera date dans l'histoire de la médecine. L'équipe dirigée par le chirurgien tchèque Bohdan Pomahac a greffé un nouveau visage à un jeune homme. Jusqu'à présent, 14 personnes dans le monde ont subi une greffe partielle du visage, mais seules 2 greffes complètes ont été réalisées, l'année dernière en Espagne et il y a quelques jours, donc aux États-Unis. La date exacte de l'intervention n'a toutefois pas été communiquée. Plus de détails avec Václav Richter.
Originaire de la ville d'Ostrava, Bohdan Pomahac a fait ses études de médecine à l'université Palatsky d'Olomouc en Moravie. Il travaille à Boston depuis 15 ans. L'homme au nouveau visage, c'est-à-dire le receveur de tissu, s'appelle Dallas Vince. Cet Américain de 25 ans établi au Texas a été grièvement blessé en novembre 2008 lorsque sa tête a touché une ligne de haute tension. Son visage a été intégralement brûlé et le choc électrique lui a détruit les yeux. Lors de l'intervention longue de 15 heures, l'équipe de chirurgiens de l'hôpital universitaire de Boston a rétabli tous les tissus de son visage, y compris le nez, les lèvres, la peau, les nerfs et les muscles. Le plus difficile, selon Bohdan Pomahac, a été de coordonner toutes les activités liées à cette opération et d'assurer la fluidité de l'ensemble du processus. Les chirurgiens ne disposaient que d'un temps limité pendant lequel les tissus prélevés pouvaient être maintenus en vie sans circulation sanguine. Il fallait entre autres synchroniser le don de tissus avec l'arrivée du receveur venu en avion depuis Dallas. Bohdan Pomahac souligne le caractère inédit de certains aspects de cette opération.
Je pense qu'une telle opération n'a encore jamais été faite dans aucun pays du monde. C'était donc un pas dans l'inconnu. Ce caractère unique est lié au fait que notre malade avait des problèmes très spécifiques et que nous avons créé un schéma d'opération un peu différent des procédés utilisés lors des interventions précédentes. Le receveur était même très différent de notre premier patient qui avait subi une intervention de ce genre il y a déjà quelques années.
Le chirurgien souligne également qu'il fallait tenir compte de tous ces facteurs qui risquaient de provoquer des situations pouvant échapper au contrôle. Selon Bourdan Pomahac, le receveur va maintenant très bien. Il a déjà quitté l'unité des soins intensifs et a commencé à se nourrir par la bouche.
Désormais, nous n'attendons plus que le moment où les immunosuppresseurs, c'est-à-dire les médicaments servant à réprimer la réaction immunitaire, auront atteint un niveau stable dans son organisme. Dès que ce niveau aura été atteint, il pourra quitter l'hôpital pour se faire soigner à domicile.
Aveugle depuis son accident, Dallas Vince ne verra pas son nouveau visage, mais il pourra désormais parler, respirer et manger plus aisément. Bourdan Pomahac regrette pourtant quelque peu que le nouveau visage de Dallas Vince ne ressemblera pas beaucoup à celui qu'il avait avant son accident.
Le nouveau visage réunira les traits du patient et quelque chose de l'aspect du donneur. Mais je crois que même le donneur ne sera pas reconnaissable dans ce nouveau visage. C'est tout ce que je peux dire quelques jours seulement après l'opération, quand le visage est encore tuméfié. Je pense que ce sera donc quelque chose entre les deux. Le receveur ne ressemblera donc vraiment ni à l'un ni à l'autre.
D'après le chirurgien, bien que dans les cas précédents, le visage des personnes ayant subi ce genre d'opération n'ait pas été parfait, la greffe a énormément amélioré leur situation et ils se sont tous habitués sans problème à leur nouveau visage.
Tout de suite, c'est la deuxième partie de cette émission. C'est la rubrique économique des travailleurs immigrés escroqués dans les forêts tchèques. C'est ce qu'essaient de dénoncer plusieurs associations en organisant cette semaine la semaine des travailleurs forestiers contre l'exploitation des travailleurs migrants dans le secteur forestier. Plusieurs centaines de personnes venues du Vietnam, de Roumanie ou encore de Slovaquie ont travaillé plusieurs mois sans jamais être payées. C'est le sujet de la rubrique économique d'Anne Claire Veluire.
Économie, commerce.
Le premier mois, j'ai reçu un peu d'argent. Ils m'ont ensuite promis jusqu'à 15 000 couronnes, mais je ne les ai pas reçues. Toutes les informations dont je disposais m'avaient été traduites par un interprète, mais je n'ai pas su avant ce que j'allais faire exactement et combien j'allais gagner.
Nghia est vietnamien et il a 41 ans. Il est arrivé en République tchèque il y a 2 ans pour chercher du travail. Il avait trouvé cet emploi saisonnier dans les forêts tchèques par petite annonce. Aujourd'hui, il compte parmi ces centaines de travailleurs étrangers qui n'ont jamais reçu le fruit de leur labeur. L'affaire a été révélée par un article publié dans la revue Nový Prostor. Marek Čaněk est spécialiste des questions migratoires en République tchèque, en est le co-auteur. Il se bat aujourd'hui pour empêcher que l'exploitation de ces travailleurs étrangers ne recommence en 2011.
Il y a probablement des centaines de personnes d'origine de Vietnam, de la Roumanie, de la Slovaquie et d'autres pays qui ont travaillé pour des compagnies tchèques dans la forêt et des travaux divers. On sait surtout que ça s'est passé en 2009 et 2010. Et maintenant, cette année, ça peut recommencer. On n'a rencontré aucune personne qui serait payée pour tout le travail qui a été fait dans la forêt. Il y a des gens qui n'ont reçu rien. En même temps, il y avait aussi des cas quand les travailleurs ont été menacés. Ça s'est passé surtout quand ils ont demandé leur salaire.
Pour quels travaux ils avaient été embauchés? Comment ils avaient été embauchés?
Ils ont eu des contrats divers. Les migrants vietnamiens, c'était surtout un grand groupe en 2009. C'était des gens qui, dans la plupart, ont perdu leur travail dans l'industrie à cause de la crise économique. Et ce travail-ci dans la forêt, ça devait être une occasion ou bien une chance d'être employé de nouveau. La promesse c'était d'être payé de 10 000 à 15 000 couronnes. Probablement au début, il y avait quelques groupes qui ont reçu leur argent, mais pas pour le deuxième mois ou bien le troisième mois. Et puis finalement, ils savaient que c'était une escroquerie. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ces compagnies-là, ils ont cherché d'autres travailleurs. Ils ont fait leur recrutement en Slovaquie et aussi en Roumanie. Et cette histoire-ci se répète en 2009, en 2010.
Ce ne sont pas des sociétés qui ont fait banqueroute et qui soudainement ont plus les moyens de payer leurs employés. C'est vraiment délibéré de leur part d'escroquer les gens qu'ils emploient.
Ce qui est important de dire, c'est que ces travaux se sont déroulés dans les forêts nationales. Pour ce travail-ci, dans les forêts nationales ou bien dans les parcs nationaux, il y a des appels d'offres. Une des compagnies les plus grandes s'appelle Les A Forest, qui a des sous-traitants, comme ces compagnies-ci dont on parle. Au début, c'était la compagnie qui s'appelle Afumikata. Et puis, en 2010, il y avait d'autres compagnies. Il y avait même plus de sous-traitants. Il y avait Madera Servizio, qui a eu un contrat avec Les A Forest. Puis, Madera Servizio a eu un autre contrat avec une compagnie qui s'appelle Wood Service Praha. Mais c'est toujours les mêmes gens, la même façon de faire venir des gens de la Roumanie, de la Slovaquie, de leur pays, probablement au début ou bien rien. Les gens, quand ils se rendent compte que c'est une escroquerie, ils s'en vont. Alors, il y a beaucoup de travail non payé. En plus, il y avait, comme j'ai dit, des menaces de violence. Il y a un article qui a été publié cette semaine-ci à Migration Online qui parle des expériences des travailleurs roumains. C'était plusieurs groupes qui sont venus travailler près de Kutna-Hora en 2010. Par exemple, un d'eux a travaillé presque 40 jours. Finalement, ils ont été transférés dans le National Park de Krkonoše, où ils ont demandé leur salaire. Le directeur de Afumikata, il leur a menacé de la tuer s'ils allaient à la police. Ils ont travaillé 7 jours sur 7.
Donc hors des lois des réglementations de travail sans respecter du tout les réglementations.
Eh bien, ils ont eu un contrat, pas un contrat régulier de travail, c'est un contrat de travail temporaire. Mais c'est vrai que ça n'a pas été respecté. Le problème, c'est que ça continue. Il n'y a pas vraiment un intérêt de la part de la police ou bien des institutions de s'en occuper. Et c'est pour ça qu'on s'est organisé. Il y a plusieurs personnes qui s'en engagent. Il y a un groupe de gens de plusieurs initiatives parce qu'on sait que ces gens comme individuels qui n'ont pas été payés pour leur travail, qui ont été humiliés par le directeur, qui ont été menacés, qu'ils n'auraient aucune chance pour la justice. Et même nous, comme un groupe de gens, on voit que c'est vraiment difficile de presser la police pour que l'investigation se déroule plus vite.
D'accord, parce que quels sont les recours de ces gens?
C'est difficile. C'est vrai que, par exemple, il y a cette compagnie Afumikata qui pourrait devenir banqueroute de l'un jour à l'autre. C'est vraiment instable, ce qui veut dire que c'est vraiment difficile de réclamer cet argent non payé. En même temps, on sait qu'il y a ces individuels qui sont derrière ces compagnies. Et aussi, c'est la raison que pour le moment, au niveau de droit, on utilise plutôt, on essaie d'utiliser le droit pénal contre ces gens-là. Et en même temps, on ne sait pas vraiment chez qui il faut chercher cet argent non payé. Si c'est chez cette compagnie avec qui les gens ont eu un contrat, ou bien si finalement le vrai employeur, ça, c'était Les Aforistes.
Qui est une société nationale,
qui est une... Non, Les Aforistes, c'est une des grandes compagnies dans l'industrie de la forêt qui gagne à peu près un quart de tous les appels d'offres organisés par la forêt nationale tchèque. Et ils ont coopéré avec ces gens, avec ces entreprises, ces sous-traitants. Leur réponse à nous, c'est qu'on n'est pas responsable, on ne sait pas ce qui se passe chez nos sous-traitants. C'est pas à nous à faire des investigations si les employés de nos sous-traitants sont payés.
Donc cette histoire des travailleurs exploités dans les forêts tchèques, c'est pas la première fois qu'il y a un scandale en République tchèque sur des travailleurs étrangers qui sont exploités par des sociétés et qui travaillent finalement bénévolement contre leur gré. Est-ce que c'est une mauvaise habitude en République tchèque d'avoir des sociétés comme ça? Est-ce que vous voyez, quand on est spécialiste des questions migratoires, est-ce que vous voyez beaucoup de cas comme ça?
Je pense qu'il y a beaucoup de cas, mais le problème, c'est que sur ce cas-là, on voit qu'il n'y a pas vraiment un grand intérêt de faire des investigations, d'arrêter des entreprises qui marchent de cette façon. En même temps, je pense que ce cas est très intéressant parce qu'on voit les politiques de l'État sur plusieurs niveaux qui ont une influence sur ce qui s'est passé à ces migrants qui ont travaillé dans la forêt, parce qu'il y a une interaction de la politique de l'État en ce qui concerne la régulation de l'économie de la forêt, la régulation de questions migratoires et aussi la régulation du marché de travail. Et là, on voit que d'un côté, l'État, par sa politique de forêt, crée des conditions précaires de travail. Il y a un intérêt de faire travailler les gens à bas prix. Et de l'autre côté, par sa politique migratoire, l'État crée une condition pour les travailleurs de ne pas avoir beaucoup de droits.
Voilà, c'était avec ces paroles de Marek Čenek, spécialiste des questions migratoires en République tchèque, que se termine cette émission économique et également cette émission en français de Radio Prague. À noter également qu'une manifestation aura lieu dimanche. Elle partira du ministère de l'Agriculture. Avis aux amateurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tous les sujets de Radio Prague sont retranscrits sur notre site au www.radio.cz. Ils sont à écouter en streaming ou en podcast. Merci de votre fidélité.